RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, vous écoutez RCF le 18-19 en région avec Alexis Claudretz.
Vous venez d'entendre la voix suave de Fabrice pour passer le relais. Place au menu de ce magazine régional ce vendredi soir pour vous accompagner, comme tous les soirs, un invité de la rédaction de Reims, bien évidemment, un invité de la rédaction de Châlons, Gabriel Francard, le président de RCF Cœur de Champagne, évoquera le printemps du don. C'est vrai que vous en entendrez parler avec les programmes nationaux de RCF. On ira faire un petit tour du côté de la Marne, notamment à travers le département, pour vous parler des visites d'Aurélien Boucher, qui propose de découvrir le département en 5 langues différentes. Nous rencontrerons dans quelques instants Patrice Morel, qui est maire de Courlandon. Et puis aussi, on débutera, là c'est vraiment imminent, dans quelques secondes, avec Jacques Cohen, notre chroniqueur d'actualité, qui reviendra sur les mesures santé. Comment écoper dans le Titanic médical? Voilà pour le programme de ce vendredi soir. On espère que vous êtes bien assis, ou en tout cas que vous êtes prêts à nous écouter, à passer un bon moment avec nous. 50 minutes qui nous mènent jusqu'à 19h. Et comme promis, on commence par retrouver le professeur Jacques Cohen. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et vous allez revenir à vos premiers amours, si je peux me permettre, professeur, puisque l'on va parler santé, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, on va parler santé et des mesures proposées par le Premier ministre, Gabriel Attal. On en cite quelques-unes au passage, parmi de nombreuses, la taxe lapin, l'accès direct aux spécialistes et j'en passe, Jacques Cohen. Quel est votre regard sur l'ensemble de ces annonces qui étaient quand même surprenantes, on peut le dire, de la part du Premier ministre?
Et on revient toujours à ses premières amours, ça c'est très connu. Et surtout quand on ne les a jamais totalement abandonnés. Ces mesures, ce catalogue de mesures du Premier ministre, que la ministre de tutelle doit voir avec soulagement, puisque c'est lui, le Premier ministre, qui les a annoncées, qui en payera le prix politique, ces mesures sont malheureusement, j'allais dire paradoxalement, pétries de bonnes intentions et ne font qu'entériner la dégradation de la situation sans être en aucune manière capable de la redresser. Alors que se passe-t-il et qu'est-ce qui est proposé? Ce qui se passe, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins exerçant comme généralistes. Et donc, les déserts s'étendent, c'est le contraire qui devient rare. À ce moment-là, les gens ne trouvent pas comment se faire soigner et on cherche tout un tas de ficelles pour qu'ils puissent être quand même soignés. Alors, l'une que vous n'avez pas citée, c'est qu'on va permettre de faire de la médecine, puisque c'est en fait ça que ça revient, à soigner les infections urinaires, les otites, les angines, tout à des pharmaciens. Et aux infirmières, ils devront cocher des cases. Pour des malades schématiques, ça marche très bien, les cases. Mais en dehors des cases, d'abord, il y a à voir s'il y a réellement une angine ou pas, et s'il y a réellement une otite ou pas. Idem pour les infections urinaires. Et donc, avec tout ça, on va permettre aux pharmaciens, aux infirmières, bientôt aux assistants médicaux, et ainsi de suite, de prescrire des médicaments, et non plus des médicaments de poudre de palimpinpin ou de faible action, mais carrément des antibiotiques. Tout simplement parce qu'on dit que sinon les malades n'en auront pas. Et parce qu'il faut longtemps pour avoir la consultation qui permet d'avoir un sachet de Monuril, 2 fois 8 jours d'intervalle, publicité gratuite. Et donc, donner à des sous-médecins le droit de faire de la médecine, ça revient à entériner de la sous-médecine. Alors ce n'est pas discriminant par rapport à ces professions, mais ils n'ont pas fait 12 ans d'études dans un sens bien précis, et n'ont donc pas la compétence nécessaire. Ou alors il faut dire que la compétence médicale ne sert à rien. Bon, là, il n'y a pas de raison de mettre comme intermédiaire entre le malade et la boîte de médicaments, un pharmacien, une infirmière, etc. Ils n'ont qu'à aller se servir. Avec un distributeur automatique, en remplaçant un distributeur de coca, ça sera parfait. Donc ça, c'est déjà une constatation. Alors évidemment, ça part d'un bon sentiment. Chacun veut faire en sorte que dans une situation de dégradation, on finisse quand même par maintenir des lambeaux d'activité médicale. Mais les présenter de façon triomphaliste, c'est présenter, non pas de nécessité vertu, mais de présenter un recul comme une victoire. Ça me fait penser au recul élastique dont Pierre Dac se moquait pour les troupes allemandes en Ukraine en 1943. Et il n'y a pas que cette mesure-là, il y a une autre mesure qui, elle, fait partie, on pourrait dire, de la panoplie des Shadok, c'est l'accès direct aux spécialistes. Même à votre âge, Alexis, on se rappelle que l'accès direct aux spécialistes, il a existé. Il n'y a qu'une quinzaine d'années qu'il a été supprimé. Et donc, on s'était dit, les spécialistes sont saturés, sont débordés, on va demander aux médecins généralistes de filtrer. Et on ne pourra pas aller voir les spécialistes directement. Maintenant, on dit exactement le contraire. Ça ne veut pas dire que les spécialistes soient moins débordés. Il faut toujours des mois pour avoir des rendez-vous chez les spécialistes. Mais avec le retour à l'ancien système, il y aura peut-être un petit peu moins d'activité chez les généralistes, mais il y aura certainement des retards encore plus considérables chez les spécialistes. C'est une mesure balancier totalement ridicule. Ensuite, il y a l'augmentation pour la énième fois du nombre d'étudiants en médecine. Mais le gros problème, c'est que vous me pardonnerez d'avoir aujourd'hui des tas de métaphores liquides. Il s'agit du tonneau et des Danaïdes. Et parce que bonne partie des médecins classés et mal classés qui se retrouvent contraints à faire généraliste ne le font pas. Ils trouvent des sous-spécialités du troisième orteil gauche, des DU plus ou moins fantasmatiques qui permettent de faire des pratiques de charlatan ou des pratiques pas trop difficiles. Pensez par exemple à Olivier Véran qui en est frappé par le syndrome beaucoup plus tard que ses jeunes collègues. Tout ça aboutissant à ce que il y a un tonneau des Danaïdes en formant des médecins qui n'exerceront pas, j'allais dire, de façon productive. Et ça, c'est quand même également tout à fait un désastre, d'autant qu'on les laisse faire, puisqu'il n'est pas question d'avoir des systèmes contraignants qui disent, par exemple, qu'on a besoin de médecins à tel endroit et pas à tel autre, et qu'ils ont le choix d'aller là où on a besoin d'eux et pas ailleurs, et on verra si à ce moment-là, d'être tenté par la médecine esthétique, effacer les rides tous les 3 mois, et faire gonfler les lèvres, on verra s'il trouve de la clientèle à Bogny-sur-Meuse de façon plus facile qu'à Cannes, à Menton ou dans d'autres villes plus richement dotées.
Jacques Cohen, je me permets, je vous interromps parce que le temps passe toujours très vite et je sais que vous voulez développer sur une deuxième partie qui va être un petit peu longue aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre concrètement, professeur ?
Eh bien, regardez les choses en face, ça serait déjà la première chose. Parce que toutes ces mesures reviennent à écoper les cales du Titanic puisqu'il n'y a même pas de pompe et que la brèche est trop importante, en envoyant les passagers avec des seaux, puis avec des casseroles quand il n'y a plus de seaux, puis avec des grandes cuillères, en leur disant « essayez quand même, on coulera un peu moins vite ». Vous voyez, je vous dirais que ça les occupe, mais c'est quand même pas excellent pour la survie des passagers et du Titanic. Ce qu'on doit regarder en face, donc, c'est que la démographie médicale implique un système directif. Il n'y a qu'en France qu'on puisse avoir un système de liberté totale, alors que la collectivité paye les études d'une part, rembourse les malades d'autre part. Donc ça, c'est quelque chose d'invraisemblable. Alors bien sûr, de laisser les médecins ne pas exercer, mais rentrer dans les activités de charlatans sans remboursement par la Sécu en est ravie. Mais du point de vue du système de santé, c'est pas bon. Et d'autre part, sont toujours en embuscade les compagnies d'assurance. Leur idée, bien évidemment, c'est que pour imposer des systèmes clos, où il soit un système de caisse unique, mais la leur, plus cher qu'ailleurs et pour ceux qui peuvent payer, il faut d'abord obtenir la peau de la Sécu. Et toutes ces mesures, y compris la disparition du concours anonyme de première année, vont dans ce sens-là. Parce que les facs vont se différencier, les unes jouant la qualité, les autres jouant le bas de gamme, et on retrouvera, comme avant 1958, les médecins mettant sur leur plaque docteur Trucmuche de la faculté de médecine de Trifouilly et pas de Bécon-les-Bruyères. Si on rajoute à ça que l'absence d'anonymat va ressusciter extrêmement rapidement le népotisme et les passe-droits, c'est une garantie de destruction de l'œuvre de Robert Debré et Charles de Gaulle en 1958, parce que Michel Debré n'a fait que mettre en musique et signer ce que son patron, Charles de Gaulle, lui avait demandé après avoir discuté avec le papa, qui était Robert Debré. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, même à l'époque où la chambre lunaire était quand même assez obéissante, le choix a été fait de faire passer dans la réforme entièrement par ordonnance pour éviter les combats de retournement et de détournement et toute manœuvre dilatoire. Donc là, c'est un grand dommage. Moi, je suis partisan de longue date d'un concours en première année. On est pris, on n'est pas pris. On est payé dès ce moment-là. Mais dans le contrat, il est précisé qu'on fera tant d'années dans un coin où on a besoin de vous et d'autre part que les spécialités seront choisis par un ordre de classement, avec un classement de sortie, et que cet ordre de classement s'imposera sans qu'on ait comme actuellement 36 astuces pour permettre que les poissons changent de sexe en vieillissant, car c'est ce qui arrive chez certains poissons.
Eh bien, merci, professeur, de nous avoir éclairé sur les mesures annoncées par le ministre, le premier ministre, Gabriel Attal, et puis d'avoir développé d'autres pistes. On vous retrouve très bientôt, et pour en savoir plus, on donne un rendez-vous à nos auditeurs. Ils connaissent l'adresse jhmcohen.com, c'est votre blog. À très bientôt, Jacques.
À très bientôt, sur le blog dans quelques jours, car je suis encore en déplacement de travail.
Le 18-19 sur RCF.
On reste près de Reims ce vendredi avant le journal régional pour retrouver un maire qui nous parle, Patrice Morel et l'édile de Courlandon, et il est avec Jean-Pierre.
Bonjour Patrice Morel.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors est-ce que vous pouvez, Patrice Morel, nous présenter un peu votre commune, c'est-à-dire Courlandon, dans la région de Reims? Combien d'habitants à Courlandon, monsieur le maire?
Alors à Courlandon, il y a à peu près 290 habitants, à peu près, ça fluctue toujours un petit peu. La commune de Courlandon, elle est située à 4 km de Fismes, juste avant Fismes.
Donc, pas très loin de Fismes, ça veut dire aussi que pour des gens qui habitent Courlandon, ils vont souvent faire leurs courses à Fismes, c'est tout près.
Oui, oui, Fismes n'est pas très loin, donc il y a les supermarchés à Fismes ou à Jean-Charles.
Alors justement, monsieur le maire, Patrice Morel, vous êtes maire depuis combien de temps à Courlandon? Comment vous avez commencé comme conseiller municipal, comme adjoint? Comment ça s'est passé pour vous?
En fait, j'ai commencé comme... conseiller en 2000, quand je suis arrivé dans la commune. L'ancien maire, M. Mauvaisin, est venu me chercher. Après, j'ai été deuxième adjoint aux avant-dernières élections. Et maintenant, je suis maire depuis la dernière élection, en 2020.
Justement, il y a beaucoup qui disent parmi les mandats électifs, le mandat de maire, c'est celui qui rapproche le plus. Vous êtes en contact, vous, avec les habitants, on vous demande des choses. Quels sont d'ailleurs ces habitants de Courlandon? C'est des agriculteurs, il y a peut-être des viticulteurs, il y a des retraités, il y a quelques jeunes qui s'installent. Comment ça se passe?
Alors, il y a un seul agriculteur dans la commune. Il n'y a pas d'entreprise dans la commune, donc c'est surtout des jeunes qui viennent s'installer, puis bon, pareil, des retraités, des anciens habitants de Courlandon.
On pose souvent la question, monsieur le maire, à toutes les communes. On a le sentiment qu'avec le Covid, par exemple, il y a des personnes, des jeunes en particulier, qui disent on veut s'installer un peu à la campagne, c'est un peu moins cher quand même. Et puis, on est à l'air, on peut respirer, on n'est pas enfermé. Est-ce que vous avez ressenti cette demande, monsieur le maire?
Pas trop, mais on a beaucoup de gens qui viennent pour essayer de s'installer justement à Courlandon. Mais Courlandon est un territoire très très petit, donc il y a très très peu de terrain à bâtir, à vendre. Il faut juste compter sur les ventes et les reventes, quoi.
Alors, on peut évoquer les communautés de communes aujourd'hui et puis le Grand Reims. Quand même, le maire reste un peu le patron quand même dans sa commune. Même s'il y a le Grand Reims, même si ça passe quand même par le maire.
Oui, bien sûr, le maire, il dirige toujours sa commune. Mais bon, il a beaucoup de fonctions qui ont été reprises par le Grand Reims.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un ou deux projets qui sont en cours ou qui se profilent pour les années qui viennent et qui sont actuellement sur la sellette à Courlandon?
Oui, on a une départementale qui traverse le village. Et donc on doit refaire les trottoirs de cette route. Et puis après, on va continuer à aménager un peu tout ce qui est à côté, c'est-à-dire la salle des fêtes, un petit parc pour les enfants qu'on a commencé à aménager. Et puis surtout fleurissement aussi.
Alors c'est vrai aussi que les personnes aujourd'hui, elles sont, je ne dis pas exigeantes, mais elles veulent quand même une qualité de vie. Par exemple, l'aménagement des trottoirs ne se fait pas toujours avec du goudron. On fait attention, il y a des normes. Ça devient quand même compliqué. Être maire, ça demande aussi beaucoup de travail. On n'imagine pas toutes les paperasseries qu'il faut faire.
Oui, ça c'est vrai que la paperasserie, elle est énorme. On ne va pas à la vitesse qu'on veut. On est tenu par tous ces problèmes administratifs. Et ça, c'est un peu dommage.
Vous avez aussi une vie professionnelle, ou peut-être êtes-vous retraité, je ne sais pas, monsieur Morel, mais il y a beaucoup de maires aussi qui trouvent qu'il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup plus qu'on ne le pense, quand on est maire d'une commune.
Disons que moi, je suis actif, je travaille dans une entreprise. Hein. Et c'est vrai que la fonction de maire est très prenante, donc il faut arriver à jongler entre le travail, la mairie, puis la vie.
Mais on peut vous déranger, je dis pas à n'importe quel moment, mais c'est vrai que il y a des personnes qui vous interpellent. De toute façon, vous connaissez tout le monde à Courlandon.
Je connais à peu près tout le monde, oui. Je suis pas natif de Courlandon, donc j'ai des fois des gens que je connais pas vraiment bien. Après, c'est vrai qu'aussi, on m'appelle des fois des heures un peu bizarres. Quoi.
Et puis, parfois, pour des questions de voisinage, pour des choses... Mais il faut bien un interlocuteur, et le maire est l'interlocuteur. C'est à lui qu'on s'adresse, parce que sinon, on se dit, à qui vais-je demander ?
Le problème, c'est que le maire, il doit savoir tout faire. Il doit tout connaître. Et ben, souvent, il n'a pas la réponse à certains problèmes. Mais les gens veulent la réponse tout de suite.
Et vous avez, avec un peu l'habitude, l'occasion de leur dire, ben, écoutez, je vais aller voir, je vais me renseigner. Vous êtes aidé en cela par le Grand Reims. Il y avait des questions techniques, je pense aux aménagements, aux voiries, etc.
Pour l'aménagement, donc comme le Grand Reims gère toute la voirie, on leur délègue tous ces travaux. Pour la départementale qu'on doit refaire, par exemple, on s'appuie un peu sur le Grand Reims, mais surtout sur des maîtres d'œuvre.
Et donc, vous êtes obligé de suivre ça tous les jours, quotidiennement. Enfin, ça veut dire aussi qu'il y a aussi une vie familiale aussi. Ben, si vous avez des occupations, évidemment, vous pouvez être dérangé, on l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment, vraiment, c'est le premier élu. C'est l'homme politique, comme on dit, entre guillemets, qu'on voit le premier, c'est lui qu'on interpelle, quoi.
Oui, c'est un peu le chef de famille, quoi, qui doit tout savoir et savoir tout faire. Ouais.
Il est aussi le confident, parfois, de gens qui viennent vous dire, voilà, est-ce que vous pouvez pas arranger telle ou telle chose, mais vous pouvez pas, enfin, je veux dire, mais vous êtes aussi tenu à de la discrétion.
Oui, bien sûr, parce qu'on nous raconte aussi, les histoires qui remontent assez loin, d'ailleurs, et, bon, bah, il faut qu'on fasse avec...
Faut arrondir les angles.
Toutes ces histoires qui sont des fois un peu à l'opposé l'une de l'autre, quoi.
Alors, évidemment, on aura l'occasion de vous retrouver, monsieur le maire, Courlandon, à quelques kilomètres de Fismes, pas très loin de Reims. Donc, combien de kilomètres de Reims, Courlandon, finalement ? 25 ?
On est à peu près à 25 kilomètres, hein, par la Nationale 31. Ça va assez bien pour venir à Reims, donc on n'est pas...
Et puis, c'est ce que souvent des maires nous disent, quand on vient à la campagne, mais il faut vivre comme des gens à la campagne. Il faut avoir des aliments d'avance, on ne fait pas ses courses quand même, on sort pas à la boulangerie en descendant en bas, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Mais enfin, bon, est-ce que vous êtes un maire heureux, on peut dire, Patrice Morel ?
Bah, je suis heureux parce que j'ai arrivé à faire des choses. Après, ça a été très très dur de se mettre dans le bain parce que la fonction de maire est assez, très, assez dure, il faut connaître beaucoup de choses.
En tout cas, merci Patrice Morel d'avoir été avec nous. Vous êtes maire de Courlandon. On aura peut-être l'occasion de vous retrouver de temps en temps sur l'antenne. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci, au revoir.
Et puisque c'est Jean-Pierre qui conclut et qui interroge le maire, pour reprendre une formule que vous aimez bien, Jean-Pierre, quand la pendule flirte avec les 18h30, c'est l'heure du journal régional sur RCF. Un journal axé sportif ce vendredi avec les titres de ce 12 avril pour célébrer son 50e anniversaire. Le lac du Der en Champagne lance Extra Lac, une saison riche en festivités qui débutera les 25 et 26 mai prochains et qui se poursuivra jusqu'en novembre 2024. Découverte. La ville de Sedan soutient le club sportif Sedan Ardennes dans sa reconstruction. Explication.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Pour célébrer son 50e anniversaire, le lac du Der en Champagne lance Extra Lac, une saison ambitieuse, riche en festivités, qui débutera les 25 et 26 mai et qui s'achèvera en novembre. Une occasion immanquable pour la présidente de l'Office de tourisme du lac du Der, Marion Chedoz.
On est parti pas sur un événementiel pour faire juste un mouveau d'air amélioré, juste un week-end. On veut vraiment faire une saison avec plusieurs thématiques pour offrir aux habitants, aux touristes et permettre de découvrir le lac à des personnes qui ne le connaissent pas et que tout le monde se retrouve dans cette saison. Donc il y aura des événements sportifs, des événements festifs, des événements mémoriels. Il y en aura vraiment pour tout le monde.
Un événement extraordinaire et d'union pour le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière.
Conviction, c'est que ce lac permet de réunir énormément d'acteurs, et c'est là où je parle d'union, c'est-à-dire que tout doit être dépassé par la chance que nous avons d'avoir ce lac, tout, les divergences de vision, les divergences de projets, que sais-je, parce que ça doit nous unir. C'est d'abord un patrimoine, avec une histoire tellement puissante, tellement forte. Donc on a un patrimoine, qui était le coup d'ailleurs d'un génie français absolument dingue. On n'imaginerait jamais aujourd'hui de refaire un truc pareil. Enfin. Et ça doit devenir une promesse absolument inouïe. Et cette promesse, pour qu'elle devienne réalité, c'est là que l'union est nécessaire. C'est de dire que ce lac doit être nationalement connu. Il ne l'est pas assez. Et donc c'est pour ça qu'on a inventé ce logo, Extra Lac. Vous voyez, c'est une saison extraordinaire pour un lac extraordinaire, avec des gens extraordinaires. Il n'y a rien d'autre qu'on doit pouvoir se dire. 50 ans, ce n'est pas qu'un anniversaire. C'est le démarrage, c'est un commencement. C'est une date qui doit nous marquer pour toujours et surtout qui permet d'imprégner comme une marque, comme une signature sur les 50 années qui viennent encore.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. La programmation des 50 ans du lac du Der est à découvrir prochainement dans la chronique touristique. Mardi 16 avril à 18h30, dans le cadre des grandes conférences, dans la grande salle de la mairie de Reims, sera abordé le thème « Croire pour vivre » en présence d'Éric Courteau, professeur à la faculté de sciences, de Gérard Lemarié, philosophe, et de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. L'entrée est gratuite, sans réservation. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien évidemment cocher cette date dans l'agenda. Et si mardi vous manquez le 18-19 en Champagne, ne vous inquiétez pas, il sera disponible en replay sur le site rcf.fr dès que vous sortirez de la conférence. Cet été, le club sportif Sedan Ardennes, club de la ville de Sedan, a connu un véritable cataclysme. Maintenu sportivement en national, ses difficultés financières n'ont pas été au goût du jour de la DNCG, le gendarme financier du football, qui a décidé de rétrograder le club. Les Verts et Rouges ont connu une véritable dégringolade et se sont retrouvés en Régional 3. Malgré ses déboires, la ville de Sedan a toujours été un précieux allié. Maxime Villa, adjoint à la culture, au sport, aux associations et animations de la ville de Sedan, également élu d'Ardennes Métropole.
À tous les niveaux, c'est-à-dire à tous les niveaux, dans toutes les catégories, eh bien pareil, le CSSA se restructure petit à petit en repartant de la base. C'est un travail qui va être long, mais qui est plutôt encourageant en ce début d'année. Et puis la ville de Sedan, qui bien entendu est aux côtés du CSSA, notamment pour l'accueillir sur ses terrains et pour construire un nouveau centre d'entraînement pour le CSSA. On y avance avec l'agglomération d'Ardennes Métropole également. On repart petit à petit, mais le CSSA est toujours debout. Le maire de Sedan, Didier Hervillon, était aux côtés du CSSA tout l'été pour essayer de le sauver. Et lorsque la sentence est tombée, eh bien, il l'a dit, et la ville de Sedan, bien entendu, est derrière le CSSA. On ne laissera pas tomber le CSSA, donc on travaille. Le CSSA s'est retrouvé tout bonnement à la rue cet été, puisque le centre d'entraînement qui était à Vazeille a été fermé. Donc on a accueilli le CSSA sur nos terrains d'entraînement. Quelques villages autour aussi accueillent aujourd'hui le CSSA et ses équipes jeunes sur ces terrains. Mais la volonté, c'est vraiment d'ancrer, de faire revenir le CSSA sur notre ville. Et pour cela, il y a besoin de terrains d'entraînement, d'un centre d'entraînement. Donc on y travaille avec, comme je le disais, l'agglomération qui va aussi accompagner fortement ce projet. Voilà, le but, c'est que le CSSA fasse son retour vraiment sur Sedan et puisse avoir tous les terrains, vraiment tout le bon environnement pour pouvoir se relancer.
Si la ville et le club travaillent bien en dehors du terrain, le club se restructure aussi sereinement sportivement dans l'ensemble de ses catégories, de l'équipe Fagnon aux catégories de jeunes en passant par ses féminines. En Régional 3, l'équipe première du club sportif Sedan Ardennes est leader du championnat, toujours invaincu après 18 journées sur 24 à disputer et compte 7 points d'avance sur son premier poursuivant éteint. De quoi voir une éclaircie dans un ciel qui s'était grandement assombri. Place à l'agenda des sports du week-end désormais, avec du football pour ouvrir la marche. En D1, Arkema, les Rémoises se déplacent ce soir à 20h sur la pelouse du Paris FC. Un déplacement périlleux chez le 3e pour des Rouges et Blanches 4e. Samedi à 17h, place au derby du Grand Est en Ligue 1. Le Stade de Reims ira se frotter à Strasbourg. Samedi à 19h en Ligue 2 cette fois. 3 reçoit le Paris FC avec une obligation de résultat pour sortir de la zone rouge. En basket, on disputera la 30e journée de Pro B samedi soir à 20h. Chalorens se déplace sur le parquet de Boulazac. C'est tout pour les rencontres du week-end. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
et c'est le moment de faire une découverte. La bonne nouvelle, c'est que nous, on va la faire en français. Vous allez comprendre. Titulaire d'un master en histoire de l'art, Aurélien Boucher vient de créer sa micro-entreprise pour organiser des visites guidées en 5 langues sur le territoire marnais. Aurélien se propose de faire visiter aussi bien des édifices religieux que du patrimoine lié aux guerres mondiales ou aux beaux édifices de notre département de la Marne.
Aurélien Boucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes guide conférencier à Châlons-en-Champagne et pas que. Quelle est votre activité principale?
Alors, c'est vraiment les visites guidées de pas mal de monuments, justement, dans les environs. Alors, ça peut aller autant des édifices religieux, comme la cathédrale Saint-Étienne, la basilique Notre-Dame de l'Épine, Notre-Dame en Vaux, et des visites un petit peu plus thématiques. Et donc, une activité qui est portée, alors, pas mal de travail avec les offices de tourisme pour des groupes, on va dire, qui viennent d'un peu partout, puisque j'ai la chance de pouvoir exercer en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en néerlandais. Donc ça fait pas mal de possibilités et une activité également tournée vers les particuliers. En fait, je crée des visites qui sont ouvertes à tous, justement, n'importe quel particulier qui peut me contacter, réserver, et je propose également des visites sur mesure. On peut me contacter et me demander, ben voilà, je suis intéressé par tel sujet, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et je vais faire tout un programme à la carte, voilà, pour partager cette joie du patrimoine.
Donc une famille qui reçoit, qui on va aller visiter le Jard par exemple.
Voilà, effectivement, et on peut faire ça, faire une visite sur mesure pendant 1h30. On va aller visiter le Jard, découvrir son histoire, des origines à aujourd'hui.
Alors, uniquement sur Châlons?
Alors, Châlons-Champagne, ça peut être aussi Reims, justement, qui n'est pas très très loin, voire même Épernay. Et aussi, une de mes spécialités, mais qui est portée sur les lieux de mémoire des deux guerres mondiales. Donc, on peut aussi se balader du côté de Dormans, de Sainte-Pitahure, de Suippes, justement. Donc là, on va dire Châlons est vraiment le principal, mais Reims, Épernay et la Marne, on va dire, en général.
Et vous êtes donc passionné d'histoire?
Effectivement, oui, depuis tout petit, c'est quelque chose qui me passionne. Tout a commencé en fait avec le film Indiana Jones, voilà, dans les inspirations. Je l'ai vu avec son chapeau en train de découvrir des choses de par le monde, archéologue, et je me suis dit, ah, l'histoire m'intéresse, j'ai envie un petit peu de creuser les choses. Et donc j'ai tout un parcours où depuis petit je lis énormément de livres, et en grandissant, ben voilà, une licence d'histoire qui s'est transformée en master d'histoire, histoire de l'art, donc très spécialisé, et qui m'a permis d'obtenir la carte professionnelle de guide conférencier. Donc je suis multi-histoire, toutes les périodes m'intéressent, autant l'Antiquité que l'époque moderne.
Donc à faire partager avec tout un public.
Effectivement.
On peut vous retrouver sur un site?
Effectivement, oui, donc pour la micro-entreprise que j'ai créée récemment, donc le site s'appelle lesvisitesdaurelien.com, donc tout attaché, et donc sur le site, il y a la liste des visites, de certaines visites qui sont proposées, et parfois donc des créneaux de visite qu'on peut réserver à l'avance pour les visites thématiques. Et il y a également une page Facebook qui a le même nom, lesvisitesdaurelien.com.
Et avec tout ça, on arrive à faire son bonheur.
Effectivement, voilà, on peut faire son marché, effectivement, il y en a pour tous les goûts, avec vraiment, comme je le disais, cette envie de partager, cette joie du patrimoine, avec quelque chose de très communicatif. J'ai beaucoup de documents, de photographies, des anecdotes, tout ça dans la joie et la bonne humeur.
Alors, on parlait tout à l'heure des édifices religieux, mais il y a peut-être des édifices laïcs aussi qu'on peut visiter?
Oui, effectivement, il y a pas mal de lieux. On parlait du Jard tout à l'heure, par exemple. On a pas mal de musées également. Alors, sur la thématique un peu plus guerre, le musée de la reddition à Reims, qui explique, voilà, que la signature de la reddition des troupes allemandes en 1945 a lieu à Reims le 7 mai 1945, alors que nous fêtons tous les ans le 8 mai.
Ouais, mais ça, c'est les dates nationales.
Effectivement, voilà. Mais voilà une petite anecdote dans l'histoire, effectivement. Oui, pas mal d'autres monuments on peut visiter. Alors, je faisais pas mal de circuits pédestres aussi. On va se balader, par exemple, dans la ville de Châlons, aller voir un peu l'hôtel de ville, les différentes places, la place de la République, aller voir la place Foch, avec toute l'histoire un petit peu, voilà, de ces bâtiments, des personnages qui l'ont traversé. Je propose aussi des visites, par exemple, art déco, plus architectural, du côté de Reims, où on peut rentrer dans la bibliothèque Carnegie, qui est vraiment un joyau de l'art déco, où je détaille un peu toute la période. On se croirait revenu dans les années 1920.
Pour contacter Aurélien, on fait quoi?
www.lesvisitesdaurelien.com, et on retrouve toutes les informations.
Eh bien, Aurélien Boucher, merci, et puis à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Aurélien Boucher avec Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Vous pouvez contacter Aurélien Boucher en passant par son site internet lesvisitesdaurelien.com. Il n'y a pas plus simple.
Le 18-19 sur RCF.
La suite de ce magazine régional, vous le savez, le vendredi, on retrouve en alternance Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, ou Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. On devait être avec le deuxième nommé aujourd'hui depuis l'Égypte, mais c'est vrai que la connexion téléphonique n'a pas été forcément idéale. C'est pourquoi on va retrouver exceptionnellement cette semaine une nouvelle fois Monseigneur Étienne Véteux, mais il a aussi des choses très intéressantes à nous dire. C'est au micro de Jean-Pierre.
Monseigneur Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Alors c'est vrai, donc oui. On est heureux de vous retrouver, Monseigneur, puisque Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort était en Égypte, on n'arrive pas à le joindre.
Alors c'est dommage. Cette rencontre en Égypte est certainement passionnante, puisqu'il rencontrait différents acteurs de l'Église d'Égypte, que c'était officiellement la Conférence épiscopale de France qui était invitée et qui devait rencontrer le patriarche d'Égypte, on appelle le pape d'Alexandrie, le pape de l'Église copte, Théodore II. Mais on aura certainement des nouvelles lors de sa prochaine émission.
Bien sûr, et on aura l'occasion d'en reparler sans doute dès la semaine prochaine. Alors, Monseigneur, on va démarrer peut-être avec vous, avec une actualité tragique que nous connaissons avec le décès d'un lycéen de 15 ans du lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle cette semaine.
Oui, nous pouvons, et je pense que je parle aussi au nom de l'archevêque, et puis finalement de toute l'Église catholique, nous ne pouvons que exprimer notre profonde émotion en raison du décès du jeune Baptiste à Saint-Jean-Baptiste-la-Salle. Toutes nos prières vont vers sa famille, vers ses proches, vers ses amis, et puis aussi, bien sûr, vers la communauté éducative de l'établissement qui accuse le choc. Nous savons maintenant par l'enquête du procureur que on peut écarter entièrement le harcèlement, que la cause du décès est médicale, même si nous n'avons pas encore un résultat définitif de la part des enquêteurs. Mais je crois que le plus important à dire à ce stade, c'est de se souvenir pour chacun de nous que perdre un enfant est une douleur inimaginable et que chacun de ceux qui sont impliqués ont besoin de tout le soutien que nous pouvons apporter.
Merci en tout cas de votre témoignage, Monseigneur Étienne Véteux. Aujourd'hui, une cause médicale est privilégiée, a déclaré le procureur hier dans un communiqué, le harcèlement écarté. Après la mort de ce jeune de 15 ans, et bien sûr vous l'avez rappelé Monseigneur, on est en parfaite, j'allais dire, des prières ce matin, beaucoup d'émotions pour toute la famille en tout cas. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Monseigneur va démarrer, ou démarre ce week-end et la semaine prochaine, une semaine de mission dans l'espace missionnaire Montagne Val d'Or. C'est à partir de demain jusqu'au 18 avril.
L'espace missionnaire Montagne de Val d'Or a la chance de recevoir la fraternité missionnaire, donc ce groupe de personnes qui a été mis à part avec le renouvellement du projet pastoral pour être entièrement dédié à la mission et à soutenir les espaces missionnaires locaux dans la mission. Donc ils ont construit ensemble cette semaine avec ceux qui sont sur place. Moi je n'aurais pas la possibilité d'y être personnellement, mais j'ai vécu d'autres missions de ce genre et je peux dire que c'est un moment de très très grand dynamisme où soit nous allons de porte à porte, alors vous savez on va pas deux par deux faire le tour des villages, faire le tour des villes pour parler du Christ ou bien simplement écouter les personnes qui auraient besoin d'être écoutées. Il y a pendant ce temps-là des petites équipes qui prient pour ceux qui sont en train de missionner, si on veut dire, et puis qui prient aussi pour les personnes qui nous accueilleront. Et puis il y a aussi des rencontres en soirée dans les églises où nous invitons tous ceux qui veulent venir à participer, qui sont une fois une Eucharistie, mais assez souvent des prières pour des malades, mais aussi des visites dans les EHPAD, des soirées avec les enfants. C'est très diversifié et moi je peux dire mon expérience personnelle a été de dire que très souvent on peut passer une journée où certaines des rencontres n'aboutissent pas et puis tout d'un coup il y a la personne que l'on devait voir. On sent que c'était quelqu'un qui nous attendait même si elle ne le savait pas et le contact est immédiat et on entre dans une conversation vraiment profonde qui peut déboucher parfois sur une demande de baptême ou en tout cas de rapprochement de l'Église. Et puis pour les équipes locales, missionnaires, les paroisses, c'est vraiment très énergisant de redécouvrir les personnes de l'espace missionnaire à travers ce regard nouveau. Il y a quelque chose qui redynamise énormément.
C'est l'occasion, bien sûr, d'en reparler. On en reparlera sur RCF. Semaine de mission, vous l'avez rappelé, Monseigneur, dans l'espace missionnaire Montagne-Val d'Or à partir du 13 avril. On avait entendu le témoignage de Bruno Rigobert de l'espace. C'était il y a quelques jours. Alors, évidemment, c'est peut-être l'occasion avec vous, Monseigneur, de parler des vocations, car on évoque dans notre agenda tout prochainement une marche des vocations. Pourquoi et de quoi s'agit-il, Monseigneur ?
Alors là aussi, il y a un point de rattachement avec ce dont on parlait précédemment, c'est que il s'agit de quelque chose qui va se vivre près de chez soi, où chacun peut participer. En fait, l'idée, c'est que les évêques de la province de Reims, donc les diocèses qui sont autour de Reims, Langres, Châlons, Troyes, Amiens, Beauvais, Soissons, ont décidé de marcher une semaine pour les vocations, du 29 avril au 4 mai, donc à peine à la fin du mois d'avril. Alors, chacun de son côté, du 29 avril au 3 mai, et puis ensuite, le 4 mai, nous nous retrouvons tous à Reims. Ça veut dire que très concrètement, Monseigneur de Moulin-Beaufort et moi-même, nous allons pas à pas traverser le diocèse en implorant, en priant, en donnant notre temps pour que le Seigneur se penche sur nous et nous envoie les vocations dont nous avons besoin. C'est une longue tradition dans l'Église que de marcher quand on a quelque chose de profond, de difficile à demander au Seigneur. Et donc c'est ce que nous voulons faire. Alors j'espère aussi qu'il fera beau. Et puis j'espère aussi, parce que ça fait partie de cette rencontre, que certains d'entre vous, certains des personnes du diocèse pourront se rejoindre à nous. Il y a deux manières de faire. On peut très simplement marcher avec nous. Vous trouverez sur le site du diocèse un programme très précis de chacune de ces journées, le 29, 30, 31, etc., où nous passerons à travers les différents lieux. Le 29, marcherons du sanctuaire Saint-Antoine des Hauts-Butées vers Charleville. Le 30, du Carmel de la Fontaine-Olive à Signy-l'Abbaye. Le 31, nous marcherons autour du sanctuaire Notre-Dame de Neuvisy. Le 2 mai, nous irons de Hermonville à Muison. Le 3 mai de Verzy vers la montagne, et puis le 4 mai à Reims. Donc il y a la possibilité vraiment de marcher avec nous, ce sera au maximum 15 km par jour. Il y a aussi la possibilité de venir nous rejoindre pour les temps de prière en début de journée et en fin de journée qui sont très bien indiqués sur le site du diocèse. Et puis le 4 mai, journée où tous les provinces se retrouveront, nous aurons une petite marche en différentes provinces de Reims jusqu'à la cathédrale, un accueil dans la cathédrale avec une longue prière, une prière qui sera adaptée à la cathédrale, et puis ensuite un moment de détente, de repas à Saint-Sixte qui sera suivi par des ateliers, des très nombreux ateliers pour tous les âges qui tourneront autour de l'appel, de la vocation, de comment vivre une vocation. Et puis nous terminerons à 17h30 par un temps de louange à la basilique Saint-Remi, suivi d'une messe de clôture avec les différents évêques.
Merci en tout cas, Monseigneur Étienne Véteux, d'avoir été avec nous. On reparlera bien sûr avec vous et sur l'antenne de ce grand rendez-vous fin avril, début mai. Merci Monseigneur Véteux, une très très bonne journée à vous et à très bientôt sur RCF.
Merci, bonne journée à tous et à toutes.
Au revoir, au revoir.
Merci Monseigneur Étienne Véteux, merci Jean-Pierre Benoît. On devrait retrouver Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort à son retour d'Égypte dans les prochains jours.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Le magazine régional sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, c'est aussi l'occasion de vous faire découvrir nos initiatives dans nos radios. Et on va terminer donc en parlant Printemps du Don avec Gabriel Francard, président de RCF Cœur de Champagne, et Christopher Fausten depuis les studios de Châlons.
Bonjour Gabriel Francard.
Bonjour Christopher.
Président de RCF Cœur de Champagne, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF dans le cadre de cette semaine du printemps du don. Il y a le radiodon en novembre, en printemps il y a le printemps du don pendant quelques jours sur l'ensemble du réseau RCF. L'occasion pour nous aujourd'hui, si vous le voulez bien Gabriel, de parler un petit peu des coulisses de la radio RCF Cœur de Champagne, son fonctionnement, ses projets, son avenir. Aujourd'hui on est un petit peu... en pleine discussion sur l'avenir de la radio avec ce réseau RCF à travers la radio numérique, le DAB+, l'avenir de la bande FM. Est-ce qu'on peut faire un point général sur la situation de la radio et son avenir?
Bien sûr, je vais quand même commencer en revenant sur le mot magique qui est le don, parce que le don, c'est existentiel pour nos radios. Mais je sais que nos auditeurs sont souvent agacés des appels aux dons qui sont quand même très 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 fréquents sur nos antennes. Donc j'en suis désolé, parce que c'est vrai qu'on peut trouver que quand on a été généreux une fois, on n'a pas envie d'être sollicité tout le reste de l'année. Voilà, donc si il y a des fréquences élevées d'appels aux dons, c'est parce que effectivement c'est déterminant dans l'avenir de nos radios. Nos radios, je le rappelle, elles sont associatives.
Oui.
Pour l'ARCOM, Autorité de Régulation des Communications Audiovisuelles, c'est associatif de catégorie A, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette publicitaire ou de manière très marginale. Très marginale. Donc on libère l'antenne de messages commerciaux qui polluent souvent les antennes de certains concurrents. Donc il n'y a pas ça, mais la contrepartie, c'est qu'il faut trouver des fonds que le commerce ne nous apporte pas. Et donc du coup, c'est nos donateurs qui font la force,
oui.
J'insiste. Ça fait la force du réseau RCF.
De faire vivre RCF, tout à fait.
Je vous cache pas que c'est aussi la force de l'Église. L'Église, c'est aussi, sauf l'Alsace et la Moselle qui sont concordataires et donc qui ont des subsides de l'État, tout le reste des diocèses français
fonctionne de la même manière.
Fonctionne avec la générosité des chrétiens, pratiquants ou pas, mais la générosité du public. Et donc notre radio est un élément de l'Église et donc on en vit également. Alors, le budget de RCF Cœur de Champagne, c'est 170 000 euros. Je vais faire très simple. L'État, normalement, via le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, ministère de la Culture, nous apporte 40-45 000 euros par an. Après, il y a l'évêché, Monseigneur Touvet, avait confirmé le soutien de Monseigneur lui avant, mais en réduisant fortement, nous demandant de faire un effort, comme tout le monde d'ailleurs. Mmh. Hein, et on a fait un effort significatif à RCF, à tel point que l'équipe, et on va y venir, il n'y a plus que 2,2 salariés, en gros... qui émarge au budget de RCF, puisque le reste, dont le président, bien sûr, ne marge pas. C'est du bénévolat pur et dur. Mais c'est
beaucoup de bénévoles, et on les salue.
Et donc, comme tous les producteurs d'émissions, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de pot, il n'y a pas de petits avantages, il n'y a pas de restaurant offert, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment du bénévolat pur. Donc ça, c'est le deuxième don, deuxième partie, et troisième partie, qui est très importante pour nous, qui est supérieure aux autres, c'est les donateurs, les auditeurs. Alors, les dons servent à quoi? Les dons et le budget servent à quoi? Les 170 000 euros, on va déjà payer nos 3 salariés, nous, qui sont 2,2 équivalents temps plein, en gros. Mais surtout, nous sommes propriétaires aussi de nos émetteurs. 5 émetteurs sur notre territoire. Et depuis peu, la nouveauté, le cadeau, c'est-à-dire qu'il y a la radio numérique terrestre, qu'on appelle RNT en français, mais oui. Comme c'est américain, c'est mieux, ça fait DAB+. Mmh. Qui est une radio numérique et qui se fait sur d'autres émetteurs, parce que ce n'est pas les mêmes techniques. Donc les émetteurs, là, on ne les a pas achetés. Là, on est sur un accord avec 13 autres radios, puisque la réglementation voulait ça, c'est-à-dire qu'on nous demandait de nous associer avec 12 autres radios, qui sont des radios commerciales pour la plupart, et pour dire, vous allez prendre en charge l'émetteur, puisque maintenant, on ne va plus atteindre sa radio par une fréquence en mégahertz, on atteint sa radio par son nom directement. Mmh. Donc, c'est-à-dire que les fréquences sont un peu les mêmes. Donc, les émetteurs, alors, du coup, pour nous, ce qui nous concerne, on a un émetteur Épernay, on a un émetteur sur Chalon, on a un émetteur à Sompuy, et on est en charge de l'émetteur de Troyes également, puisqu'il n'y a plus de RCF dans l'Aube, mais il y a encore des gens qui sont demandeurs des bonnes émissions RCF, et qui sont aussi généreux donateurs. Alors, on n'en connaît qu'une petite partie, puisque nous, la bande FM, elle diffuse à partir d'émetteurs de Larzicourt et l'émetteur de Cézanne, on arrive à arroser tout le nord de l'Aube. Donc on n'a pas perdu complètement tous les auditeurs, mais à Troyes, effectivement, pour écouter RCF, il faut être sur Internet ou sur son téléphone portable.
Tout à fait.
Donc ça, ça fait des moyens. Donc vous voyez, les émetteurs coûtent une bonne partie de notre dépense, mais c'est effectivement le lien. Et c'est pour ça que la vie de cette radio s'est fait, et moi en tant que président avec l'équipe salariée, eh bien on essaye de faire du contenu et de faire du contenant. Hein, de contenant, c'est-à-dire, je rappelle quand même...
Si il faut jongler sur les deux.
Voilà. Si ça intéresse un peu nos auditeurs de comprendre un peu ce que c'est la technique, les émissions sont préparées sur Chalon, donc dans nos studios, avec actuellement, je n'ai pas cité, mais on a actuellement un jeune en service civique, donc qui n'est que très partiellement payé par notre radio, mais payé le reste du temps par l'État, donc on met un petit peu quand même, qui s'appelle Maël, et qui est là pour apprendre, découvrir le métier, parce qu'il va en faire son métier plus tard, donc on est fiers d'accueillir un jeune qui était en train de chercher à construire son avenir, et qui vient avec nous apprendre le métier, de lui donner l'envie de faire ce métier, et probablement qu'après il va s'inscrire dans une formation spécialisée.
C'est tout ce qu'on lui souhaite.
On avait eu Alissa l'année dernière, que j'ai entendu. C'est aussi une jeune fille qui était en train de s'interroger, comme beaucoup de jeunes au service civique.
Bien sûr.
Ils sont dans une étape de leur vie, ils ne savent pas trop où ils veulent aller. Et le service civique les aide à s'orienter. Et moi, j'estime que notre mission de radio chrétienne francophone, c'est aussi d'être ouvert à tout ce public jeune qui cherche à son avenir, qui cherche à construire. Si nous, on peut être co-acteur de l'amélioration du futur de certains jeunes, tant mieux. De la même façon qu'on accueille beaucoup de stagiaires, les stagiaires de troisième qui viennent nous voir, parce qu'il y a un stage obligatoire. Mmh. Mauvaise nouvelle, c'est que maintenant, il va falloir faire un stage en seconde également. Mauvaise nouvelle par rapport aux parents qui s'inquiètent, ce qui est normal. Et donc voilà, nous, on fait aussi cette mission. On fait aussi cette mission d'accueil. Et donc, ce que l'on cherche à faire, c'est que vous ayez, vous, les auditeurs, une radio qui est ancrée sur le territoire, avec des producteurs qui essayent de vous donner envie d'écouter leurs thématiques favorites, parce que chacun vient nous apporter un peu en fonction de sa sensibilité, de son expérience professionnelle ou du message qu'il veut faire passer. Tout ça, donc, c'est une radio qui, malgré tout, reste une radio de proximité, une radio qui essaye de suivre au mieux ce qui se passe sur le territoire du diocèse de Chalon, du nord du diocèse de Langres, voire le nord de...
Du diocèse de Troyes.
Donc le diocèse de Langres, c'est-à-dire Saint-Dizier, diocèse de Troyes. On touche aussi l'ouest de la Meuse. Mmh. Enfin bref. Et on travaille avec nos amis de Reims pour le fameux DAP+, sur lequel on voudrait qu'il y ait du contenu plus partagé. Voilà un peu toute la problématique de notre radio.
Gros dossier pour cette année.
Qui est passionnante, donc je dis ça parce que franchement, si certains de nos auditeurs veulent découvrir quelque chose de moderne, quelque chose d'ancré dans la vie locale, quelque chose qui est impliqué à la fois dans l'église, mais si les gens ne sont pas impliqués fortement dans l'église, mais qu'ils ont envie de faire de la radio, oui. Une radio qui n'est pas commerciale, qui viennent nous rejoindre. Parce que les dons, c'est bien, on en a besoin si on n'existerait plus. Mais alors, un appui humain, qu'est-ce que ça nous ferait plaisir? C'est pas mieux, c'est autre chose.
C'est autre chose.
On a besoin.
Merci Gabriel Francard, président de RCF Cœur de Champagne, d'avoir accepté notre invitation et très bon week-end à vous.
Merci Christopher et puis bonne chance pour la suite avec l'équipe permanente qui me plaît bien et puis l'équipe des bénévoles que je remercie encore une fois de nous apporter un appui. Et puis bienvenue à toutes les nouvelles bonnes volontés qui vont venir nous rejoindre.
Merci à tous les deux, messieurs. On vous souhaite une bonne soirée, comme à l'ensemble de nos auditeurs, qu'on se fera un plaisir de retrouver avec le magazine régional lundi à 18h10. D'ici là, vos programmes locaux vous accompagnent tout au long du week-end sur RCF Cœur de Champagne, RCF France Ardennes. On vous souhaite une très bonne soirée. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui prend le relais.